Bonsoir, nous sommes mardi, il est 21h et c'est l'heure du
Je
Dobar.
pars.
Et là, bonsoir à tous, bonsoir Méduse.
Salut Momo.
Ah là là, que ça fait du bien de se retrouver pour un dojo bar,
oui.
Surtout pour un dojo bar
deux événements.
De deux événements, deux sujets excitants qu'on voit pas si souvent que ça. Un Mario et un Zelda, donc du coup on va faire un dojo
je
bar.
Je pensais parler de Zizi Terra, moi.
Oui, c'est un événement excitant aussi, mais plus souvent. C'est-à-dire que nous on en profite un petit peu plus souvent.
Ouais, voilà.
Donc on va d'abord parler du Mario, ensuite parler du Zelda, mais d'abord le tour de table de l'actualité avec nos superbes invités que je te laisse présenter.
Bien sûr, alors c'est pas la première fois qu'ils viennent, évidemment on les connaît déjà un petit peu. On a bien sûr Oscar, le maître des chiffres. Salut Oscar.
Bonsoir.
En pleine forme. En pleine forme Oscar. Ouais, on a bien sûr.
J'ai décidé de pas
ouais.
répondre en fait.
En pleine forme, ouais non, je sais pas. Et Antix, Antix du forum Nintendo Man, qui est né un peu trop tard pour être quelqu'un de sympathique, mais qu'on garde quand même avec nous par pitié. Salut Antix.
Merci Méduse, bonsoir à tous.
Salut. Et bien évidemment, on va commencer par le petit tour de table de l'actu.
Tu voulais commencer, t'avais des chiffres, sauf si t'as pas du tout le temps de les bosser, parce que
j'ai je voulais tenter de parler de la mise à jour qui vient juste de tomber de la 3DS, donc le firmware 7.0.0.13, qui donc apporte le Miiverse sur 3DS, mais qui sert aussi à rassembler les comptes eShop entre la Wii U et la console. Alors, expérience personnelle, je vais m'y reprendre plusieurs fois avant de déjà réussir à faire la mise à jour. Donc entre à midi ça marchait pas, à 13h ça marchait pas, à 14h ça marchait, alors qu'elle est indiquée comme disponible déjà à midi. Et là pour la suite, j'ai tenté d'entrer dans l'eShop et j'y suis toujours pas parvenu. Je suis parvenu à lier mes comptes, mais je ne suis pas parvenu à entrer dans l'eShop. Alors au rang des nouveautés, c'est l'aide de nouveautés principales, mais on a aussi des petits ajustements sympathiques, comme le fait que avant pour déclencher l'appareil photo de la 3DS, il fallait appuyer soit sur le L ou le R en étant sur le menu. Maintenant il faut faire les deux en même temps. Ce qui est plus pratique parce qu'on appuie parfois par inadvertance sur L ou R. Alors une fonctionnalité, j'ai été surpris en lisant les réactions sur le compte Twitter de Nintendojo de voir qu'il y a pas mal de gens qui se réjouissaient de la limitation du transfert de console. Quand on a une 3DS et qu'on change de 3DS, on peut transférer d'une à l'autre. Avant, cette limitation à 5 transferts, et cette limitation a sauté. J'ai vu plein de gens se réjouir et je me suis dit, bah ça alors. Il y a des gens qui ont changé plus de 4 fois ou 5 fois de 3DS. Est-ce que c'est le cas de quelqu'un
ici? Avec toutes les versions qu'il y a, entre la XL, la normale, la 2DS, il y a peut-être des gens qui ont changé une ou deux fois déjà. Hein.
Ouais,
non, mais c'est surtout, je pense, un pas encourageant vers la possibilité qu'un jour les comptes ne soient plus liés à une console, mais au compte. Enfin, les achats soient liés au compte plutôt qu'à une console, quoi.
Oui.
C'est ce qui serait bien.
On sait que toi, tu es un fervent, puisque tu t'es fait voler, malheureusement, ta 3DS XL.
Voilà, exactement.
Pour avoir
perdu tous mes achats, j'en avais pas des masses non plus, mais.
Ouais, non, mais
j'avais les jeux ambassadeurs, notamment.
Ah, c'est chiant, voilà. Ça.
Oui, parce que ceux-là, tu les récupères pas, hein. C'est juste pour les gens ambassadeurs. Il y a effectivement cette petite nouveauté-là. Moi, ce que j'ai noté, alors moi, j'ai pu le tester, le Miiverse, contrairement à Méduse.
J'ai testé le Miiverse, en fait. Mais
t'as testé le Miiverse, pardon.
C'est l'eShop.
Ah, c'est l'eShop qui marchait pas.
Alors moi, l'eShop, j'ai réussi à m'y connecter au chiottes tout à l'heure, donc peut-être que ça marche maintenant.
Faut peut-être que j'aille au chiottes, c'est ça?
Ça marche peut-être que au chiottes, ouais.
Meilleure connexion, ouais.
D'accord. Mais le Miiverse, par contre, je trouve pas mal fait du tout. Et c'est bien parce que les notifications, vu que tu peux accéder à tes communautés que tu suis de jeux Wii U sur la 3DS et vice versa, forcément quand tu réponds quelque part, que quelqu'un te répond, les notifications sont partagées entre les deux machines en fait. Donc c'est vraiment là ils ont vraiment fusionné, les Miiverse sont vraiment déjà fusionnés en fait.
Bah, en même temps, comme c'est un seul service central qui est sur tout ça, c'est un petit peu plus simple à faire finalement. Mais c'est vrai que le système de notif est pas mal. Par contre, j'ai une question. T'as une 3DS XL ou t'as une 3DS classique?
Une XL.
D'accord. Donc tu n'as peut-être pas remarqué que l'univers c'est quand même pas des masses lisibles sur la 3DS standard. Alors je suis le seul à avoir une 3DS standard.
Non, même, en fait, même sur le sur la XL, c'est pas top par rapport au confort du miroir sur Wii U forcément, mais après ça reste potable, mais c'est pas non plus la panacée, quoi. C'est-à-dire que ton Mi il est un petit peu dégueulasse, alors qu'il est super lisse forcément sur le gamepad, et les screenshots, j'ai pas regardé de screenshots Wii U encore.
Alors les screenshots Wii U passent en direct dans une minute, mais... les screenshots Wii U passent pas si mal que ça. Enfin voilà, ils sont pas à la bonne résolution, mais on arrive quand même un peu près à voir dessus, donc c'est pas ce qui est pire. Alors, ce qui était vraiment choquant pour moi, c'était sur l'écran du bas, le menu qui est tout en bas, qui est vraiment très 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 pixelisé, où on voit pas grand-chose.
Oui, c'est le cas aussi sur 3DS XL, disons-le carrément, il est un peu... Le Mi est complètement dégueulasse, alors les quatre autres boutons, ça va. Ceux pour les communautés, les notifications et pour revenir en arrière. Et celui du Mi est particulièrement dégueulasse. Le truc que j'ai trouvé cool, par contre, c'est que les communautés 3DS, ils en ont déjà ajouté pour des jeux qui commencent à dater, comme Mario 3D Land ou Mario Luigi Dream Team Bros, même Luigi's Mansion 2.
Ce qui est très Mario amusant, Kart. C'est de voir que Zelda A Link Between Worlds a énormément déjà de posts sur l'univers, donc ça veut dire qu'il y a quand même pas mal de gens qui ont soit créer un compte univers sur leur 3DS, soit transférer leur compte Wii U, donc ça fait quand même plaisir, ouais, de voir que ça prend bien, quoi.
Ça veut dire que ça marche, ouais. Dans le jeu récent, les deux derniers jeux à avoir une communauté, c'est Bravely Default qui vient de sortir, et Scribblenauts Unlimited qui est enfin sorti, et était reporté de assez longtemps. C'est vraiment, voilà. Alors l'eShop, je sais pas si quelqu'un qui a pu y accéder peut en parler.
Alors je sais pas si Antix, t'avais réussi à accéder à l'eShop, toi.
Aux toilettes.
Je suis allé très rapidement, donc aux toilettes. Pendant que j'étais aux toilettes, en fait, il n'y a pas énormément de différence. Par contre, il te redemande de relier ton compte Nintendo, Club Nintendo, donc celui du site, avec ton compte eShop. Mais après, il n'y a pas eu de changement radical, quoi.
D'accord, c'est une petite amélioration d'ergonomie par-ci par-là, quelque chose comme ça.
Bah, en fait,
ta console, surtout, qui est partagée entre les... T'as ton pognon qui est partagé entre tes e-shops.
Ouais, t'as ton pognon qui est e-shop, que ce soit Wii U ou 3DS, c'est le même finalement maintenant, c'est juste on n'achète pas les mêmes logiciels dessus, mais globalement c'est le même compte et le même pognon.
Après, moi j'ai pas vu s'il l'avait conservé, puisque mon pognon est toujours à zéro, vu que quand je fais mes achats, je demande juste à me débiter le prix du truc, quoi.
Ah oui, tu fais pas de recharge de 10 ou 20 avant, quoi.
Ça sert pas à grand chose, je trouve.
Ouais. Ça peut servir toujours, hein. Mais voilà, le truc qu'il y a, finalement, dans les dernières mises à jour, il parle d'une amélioration de performance, mais ça, évidemment, on n'a pas les détails sur ce que ça concerne, vu que clairement, ces divers ajustements mineurs ont été réalisés afin d'optimiser le confort d'utilisation. Mais du coup, je trouve que les menus de la 3DS, ça allait encore, quoi, donc c'était pas
à
la mort, mais j'ai pas noté d'amélioration significative. Maintenant, peut-être que ça peut il faudrait tester avec une carte SD de classe 10, par exemple, voir si ça apporte quelque chose, mais vu que ça apportait déjà quelque chose avant la mise à jour, mais peut-être que c'est encore plus le cas avant, je sais pas.
D'accord. On va passer à un autre sujet, il me semble qu'Oscar voulait parler des VGX. J'aime bien parce qu'il y a un X à la fin. Voilà.
Oui,
Oscar,
enfin,
on te laisse en parler, je sais pas si c'est long ou pas, mais on te laisse en parler.
Ça va être très court parce que c'est le sujet que j'avais prévu avant qu'il y ait les VGX. Depuis, il y a eu les VGX et c'était complètement à chier, donc j'en ai rien à dire en fait.
D'accord, merci pour ta contribution.
Mais je vous en prie.
On a noté que c'était à chier et que donc il fallait pas les regarder. Voilà.
Voilà.
Non, mais c'est bien, les gens sur Twitter se plaindre.
D'ailleurs, vu que j'ai profité des VGX pour en faire une traduction en direct tout en streamant les VGX en vidéo.
Tout à fait, c'était très réussi.
Ouais. Et du coup, j'ai pu dessiner des zizi à l'écran, des bulles de TG à côté en paint, tu vois, que je mettais tout près de la fenêtre de vidéo tellement ils me cassaient les pieds. C'est vraiment naze leur truc.
Non, mais voilà, t'avais vraiment que ça à faire, quoi.
Voilà.
C'est l'intérêt du Twitch pour Medus, c'est de dessiner des caquettes chez le plus de monde possible, en fait.
En fait, j'aurais pu, on aurait tous espéré qu'il y ait... Enfin, la présentation de Donkey Kong était sympa quand même.
Il y a Cranky Kong quand même. Le seul truc intéressant qui s'est passé au VGX, c'est qu'on a appris que Cranky Kong était un personnage jouable, ce qui est quand même juste énorme.
On a eu une date de sortie qui est le 21 février pour les États-Unis. C'est quand même...
Donc, à part ça, il n'y a eu rien, absolument rien d'intéressant.
Il y a eu la présentation de Light, un jeu de zombies en monde ouvert, était assez sympa.
Ouais, enfin, moi ce que je retiens surtout, c'est le No Man's Sky.
Mais j'attends de voir plus parce que ça m'a l'air un peu bâtard comme machin.
Moi j'ai eu le concept, ça m'a pas donné envie du coup.
Autant l'esthétique, je la trouve sympa, autant j'ai un peu du mal à percevoir ce qu'il faut y faire, ce qu'on peut y faire. J'ai l'impression qu'on peut passer d'une planète à l'autre avec des phases donc sur les planètes et des phases en vaisseau. Mais je suis pas certain d'avoir compris.
Oui, de toute façon, c'était juste un teaser. Moi, ça a teasé ma curiosité personnellement. Après, faut attendre d'en savoir plus, quoi.
Sans plus, j'ai peur du pétard mouillé pour le moment, mais on verra.
Et on va finir avec Antix qui voulait nous parler du guide Louvre 3DS. Alors c'est vrai que c'est un truc qui m'a un peu surpris. C'était, je crois, un des derniers Nintendo Direct.
Oui, qui est arrivé alors qu'on n'était pas au courant.
On n'était pas au courant, le guide du Louvre sur 3DS. Donc voilà, Antix, je te laisse en parler, puisque apparemment tu as contribué très légèrement à ce merveilleux guide.
Très légèrement, ça a été un mois d'avril assez intensif, mais... en fait, c'est donc pour revenir un peu en détail, le Louvre, à l'heure actuelle, son guide est sur la Nintendo 3DS. C'est une collaboration entre le musée et Nintendo, notamment les branches japonaises, anglaises et allemandes de Nintendo qui contribuent à l'audio guide.
Et le Louvre, c'est en France.
Louvre, c'est en France, mais je parlais des branches de Nintendo, en fait.
Dans les branches de Nintendo, il n'y a pas Nintendo France qui contribue.
Nintendo France, ils t'envoient des mails inutiles. Ouais, voilà,
Nintendo France, c'est un aspect de la com, quoi.
C'est des zéros, hein.
C'est de la distribution, quoi, c'est tout.
Voilà, même Nintendo Belgique, ça ressemble à quelque chose à côté.
Non, ça ressemble à rien. Ça ressemble à rien.
C'est pas la moitié de Nintendo Pays-Bas, Nintendo Belgique.
Si, c'est Pays-Bas, Luxembourg et Belgique, mais pour te donner une idée, je crois qu'ils étaient à peu près 3 employés il y a une dizaine d'années. Maintenant, je sais pas, ça peut être évolué, mais.
Non, ils sont plus qu'à 2. Il y a des grosses subtilités.
Peut-être qu'il y a un community manager, ils sont à 4.
Franck, si tu nous écoutes.
et donc dans le cadre de ce partenariat, il y avait comme condition que, en plus de l'audio guide, donc qui est en location au Louvre, on loue la console directement avec l'audio guide dessus, on puisse.
Ouais, on peut carrément. En fait, quand t'arrives au Louvre, au lieu d'avoir un audio guide qui est un machin un petit peu con, tu prends carrément une 3DS. Quoi.
T'as une 3DS XL.
Putain, c'est cool.
Toutes les fonctions habituelles sont disponibles, enfin, sauf le Street Pass et le Spot Pass. C'est remplacé par la géolocalisation avec le Wi-Fi. T'as des petits appareils un peu cachés partout dans le Louvre, donc bonne chance pour les trouver, par contre, ils sont vraiment bien cachés. Et donc dans le contrat, il y avait la condition que Nintendo puisse sortir un guide du Louvre, puisse les charger directement sur sa console, ou acheter au format cartouche. Et donc c'est ce qu'ils ont annoncé le 27 novembre, sachant que moi j'ai travaillé dessus quand j'étais en stage au Louvre, donc sur le début 2013, et que la partie logicielle était quand même prête depuis le printemps, donc il y a eu pas mal de... C'est surtout, à mon avis, le packaging et la partie juridique qui a pris du temps.
Oui, parce qu'il y a plein d'œuvres au Louvre qui doivent être encore protégées plus ou moins par le droit d'auteur, donc s'il y a des reproductions qui sont faites à l'intérieur de la cartouche, il faut peut-être demander aux ayants droit, enfin, ça, il y a des histoires de ce genre-là...
Ça, c'était déjà réglé avant. Enfin, c'était réglé avant que je parte, mais il y a tout ce qui était mis en disposition des cartouches dans les boutiques du Louvre. Parce que on peut trouver les cartouches qu'à ces endroits-là.
Ah d'accord, c'est des cartouches qui sont intégrées. Donc si tu veux avoir la cartouche du guide du Louvre, il faut absolument que tu ailles au Louvre. C'est pas disponible dans le commerce.
Oh, c'est presque collector du coup.
Et donc de mémoire, je crois que c'est 20 euros pour la version démat sur l'eShop et 30 euros en boutique. Sachant que en boutique, c'est une version par langue. Et alors j'ai cru comprendre que la version anglaise marchait sur les consoles américaines et européennes. C'est assez drôle.
Ouais, je crois, c'est ça. Moi, j'ai regardé une partie d'une Nintendo Direct aux toilettes, justement.
Putain, mais c'est pas vrai. C'est vraiment, vraiment pas sérieux. Si tu Twitch de tes toilettes, je te jure que c'est... Oui, enfin, non, si tu Twitch de tes toilettes, c'est classe.
Pour ça, je dois emmener un PC de 20 kilos, donc ça va pas le faire, je crois.
T'as vraiment pas de testicules.
Il y aura plus de place, quoi.
Et un écran en plus, donc ça va pas.
T'as vraiment, vraiment pas de testicules.
Challenge accepted. Mais pour le coup, ouais, j'ai regardé le plus. C'est clair que ça avait l'air super intéressant. On voyait Iwata et Kirou qui faisaient les guignols marcher dans le Louvre avec leur 3DS. Et du coup, comme le trailer était en 3D, on pouvait voir. Enfin, il y a quelques screenshots 3D sur l'eShop. Et je crois qu'on pouvait voir aussi une vidéo en 3D. C'est assez bien foutu, en fait.
Ouais, ils ont fait
même pour regarder chez soi, je crois que les gens qui vont au Louvre et puis qui après achètent la cartouche pour bien se remémorer ce qu'ils ont vu, si ça les intéresse, je pense que la cartouche, ça peut être très sympa dans la mesure où la vue est assez sympathique, assez saisissante.
Il y a des modélisations 3D de certaines statues. Elles sont vraiment bien faites. Enfin, j'étais assez surpris la première fois que je les ai vues.
Ouais.
T'as des photos en haute résolution, t'as même quelques photos en 3D pareil pour les statues, mais genre mise en situation, qui sont vraiment réussies pour le coup. Après, c'est... C'est vrai que c'est ça que, en tout cas, au niveau contenu, c'est vraiment gêné. Enfin, moi, je trouve ça assez complet. T'as pas tout de Louvre parce qu'il y a énormément d'œuvres, mais il y a énormément de choses qui ont été mises dedans. Et...
Tu trouves que ça vaut largement ces 20 euros ou ces 30 euros en boutique ou...
Honnêtement, j'y ai bossé dessus, donc je pense que j'ai pas vraiment une vision très objective de la chose.
À la limite, c'est même une vision pas objective. Ça, voilà.
Je pense
toi
que
qui as travaillé dessus, est-ce que tu trouves que ça vaut...
Honnêtement, je pense que ça vaut
les 20 euros pour avoir le Louvre dans sa poche, finalement.
Je pense que ça vaut ces 20 euros parce qu'il y a quand même eu un gros travail derrière. En tout cas au niveau du développeur, qui est pas Nintendo d'ailleurs, c'est IndieZero, les mecs qui ont fait le jeu de musique Final Fantasy qui est imprononçable.
Théatrisme,
un truc comme ça.
Et c'est eux qui ont fait Electroplankton aussi.
Aussi, ouais. Bon, en tout cas, il y a vraiment, pour moi, je pense qu'il y a eu du bon boulot. Et j'aurais plus tendance à vouloir le prendre en dématérialisé, parce que ça peut être quelque chose où si tu vas au Louvre, comme ça, t'es pas obligé de trimballer la cartouche directement sur ta console. Et vu que tu peux utiliser le guide que tu as acheté dans le Louvre en tant que du guide du Louvre, avec les mêmes fonctionnalités que celui que tu pourrais louer, je pense que c'est plus intéressant de l'avoir en démat. Voilà, j'ai fait la pub.
D'accord. Non, mais c'est bien, écoute, franchement, c'est de la pub pour de la culture, pour changer, au lieu de faire de la... Parce que clairement, nous, notre culture, c'est plus de la culture de ventouse de canapé. Hein. là, pour
moi
une fois qu'on fait de la culture qui ressemble à quelque chose, je vais marcher dans la soupe. On va faire une première petite pause musicale, les enfants.
Ouais.
Parce qu'il est temps. Et on va s'écouter un petit morceau de la bande originale de Yoshi's Island, donc Super Mario World 2. Moi, je maintiens que c'est quand même Super Mario World 2.
Ça aurait pu être du Zelda.
On va parler de Mario juste après. Donc, on commence par du Mario et on mettra du Zelda ensuite.
Ouais.
Donc, le morceau s'appelle Flower Garden et les gens qui ont joué à Yoshi's Island reconnaîtront très très rapidement dans quel niveau on pouvait entendre ça. On se retrouve dans un tout petit peu moins de 3 minutes. Foiré, mais c'est tout va bien. Voilà, tout le monde crie tour, donc on est vraiment de retour. Et donc, le premier sujet, ça va être Super Mario 3D World.
Un jeu violent.
T'as pas un filtre plombier moustachu dans ta nouvelle question.
J'ai pas besoin de filtre pour ça. It's a me, Medus, wouhou.
Donc, Super Mario 3D World sur Wii U. Alors, si je dis pas de bêtises, donc Antix, il y a presque pas joué ou pas joué du tout.
Pas joué du tout. Malheureusement,
Il est dans le blister ou c'est juste que t'as même pas de Wii U parce que t'es un sale traître?
J'ai pas de Wii U, surtout parce que j'ai pas de thunes.
Non, ça c'est une excuse minable. Ça, il faut t'endetter pour acheter une Wii U. T'as pas compris comment ça marche.
Un ordinateur. Parce que t'es avec nous.
Oui.
Ben voilà, tu le revends, t'achètes une Wii U.
Voilà.
C'est grand pour venir au prochain Dojo Bar.
Bah, tu le branches sur ton gamepad et.
Et on trouvera.
On se débrouillera. Voilà. Et Méduse non plus, il peut pas ou peut jouer. Il y a que non. Oscar et moi-même qui avons commencé. Donc. Finalement, est-ce que ça a vraiment un rapport avec Super Mario 3D Land? Parce que d'après le titre, on a un peu l'impression que c'est la suite spirituelle de Super Mario 3D Land. Alors Super Mario 3D Land, je suppose quand même qu'il y a plus de gens qui y ont joué. Alors Medus, je sais que t'as pas joué parce que t'es un sale traître qui a pas de 3DS depuis très longtemps.
Alors j'ai une DS et j'ai Mario 3D Land dessus.
Et t'as pas joué et t'y as pas joué.
Mais je l'ai pas lancé parce que j'en ai rien à foutre. J'y jouerai juste pour la culture.
Mon Dieu.
Si tu le lances maintenant, tu pourras peut-être le finir avant la fin du Dojo Bar.
Oh là là, ça c'est plus trop. Personnellement, par rapport à Super Mario 3D World, c'est vrai qu'on retrouve un petit peu le même genre de mécanique.
Par rapport à 3D Land, tu veux dire.
Par rapport à 3D Land, pardon. 3D World, par rapport à 3D Land, on retrouve le même genre de mécanique, c'est une espèce de plateau avec une vue en caméra fixe, qui ressemble effectivement beaucoup à un Super Mario Land un peu, enfin, un Super Mario World un peu classique, mais juste mis en 3D, c'est-à-dire qu'effectivement, on peut se balader dans un décor qui est un petit peu plus étendu que d'habitude. Mais j'ai
En fait, moi, je dirais même que c'est effectivement très proche de 3D Land, dans le sens où, paradoxalement, par rapport au titre, c'est un peu un Mario en 2D, mais avec une possibilité de déplacement en 3D, mais avec beaucoup de niveaux où finalement on évolue uniquement en 2D.
Tout à fait. C'est, effectivement, il y a énormément de niveaux, mais moi ça m'a beaucoup rappelé dans le déroulement, c'est-à-dire que si tu prends Super Mario 64 par exemple, qui est de la vraie 3D avec une caméra libre, où tu te balades, alors certes dans un niveau qui est limité dans l'espace, mais dans des niveaux finalement très verticaux, où on essaye vraiment de faire de la 3D, comme dans Super Mario Sunshine, où c'est vraiment un vrai Mario en 3D, là on dirait vraiment un Mario en 2D dans son déroulement, mais en 3D dans sa présentation.
Il y a un début, il y a une fin au niveau, quoi.
Ouais, voilà, en fait, c'est Super Mario Galaxy 2 déjà était pas mal comme ça, et c'est marrant parce que ça rappelle un peu les tout premiers jeux de plateforme en 3D, hors Nintendo, puisque effectivement, avec Mario 64, Nintendo avait vraiment orienter son truc vers de la 3D avec une liberté de déplacement dans les niveaux, mais plutôt des jeux comme Crash Bandicoot par exemple, où c'était des jeux en 3D mais avec un fonctionnement très proche de ce qu'on trouvait déjà avant avec la 2D.
Je suis avec le parallèle sur Crash Bandicoot, c'est effectivement ça, c'est un peu comme Super Mario Galaxy qui finalement était un Mario 2D, hein, finalement très linéaire avec un début, une fin.
Surtout le 2, qui s'est orienté déjà plus comme ça.
C'était pire que le 1. De ce point de vue-là, mettait l'accent encore plus loin, puisque même quand on récupérait les étoiles, finalement on les récupérait de manière très linéaire, contrairement à Super Mario 64 où il y avait un petit côté exploration, c'était pas non plus.
Ouais, voilà, et puis effectivement Mario Sunshine, là c'était carrément de l'open world, quoi.
C'était quasiment de l'open world. Mais là, du coup, Super Mario 3D World, j'ai bien aimé. Alors, j'ai pas fait l'ensemble du jeu, j'ai fait les deux premiers mondes à peu près.
Il y a à peu près 10% du jeu.
Donc, à peu près, ouais, bah, je fais ce que je peux.
Enfin, j'exagère.
Moi, j'ai des enfants, hein, monsieur. Hein. Non, mais voilà, j'ai fait les deux premiers mondes et je me suis fixé un objectif quand même, c'est de torcher systématiquement tous les niveaux pour éviter de finir le jeu et puis me dire, faut que je revienne sur ce niveau-là pour choper les étoiles vertes et tout ça. Donc chaque fois que je fais un niveau, je le finis à 100%. Comme ça, je reviens plus dessus et ça permet de vraiment bien approfondir le truc. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de niveaux qui finalement sont en 2D, même les niveaux où t'as de l'escalade. Voilà, enfin je veux dire, ce serait un niveau en vue du dessus dans un jeu 2D, ça reviendra à peu près pareil, quoi.
Ouais, exactement, ouais. Bah d'ailleurs, il y a même, je crois, deux niveaux où t'as une vue entièrement pour l'intégralité du niveau, une vue de dessus.
J'ai pas fait de niveau en vue du dessus, je crois. J'ai fait des niveaux en vue de côté.
C'est vers la fin, c'est vraiment vers la fin.
D'accord. Parce que moi j'ai fait les niveaux, tu sais, en vue de côté, comme dans les égouts. Tu sais, les égouts de Super Mario Bros, ou les égouts de Super Mario Sunshine, où finalement t'as le niveau en vue de côté, où tu te déplaces dans la profondeur que très 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 peu. Et à un moment tu ressors, et t'as le drapeau, et puis tu te débrouilles, quoi. Et t'en as quelques-uns de niveaux comme ça, qui effectivement ressemblent énormément à des niveaux de Mario Bros, beaucoup plus qu'à des niveaux d'un Mario 64.
Ouais, voilà. Non, après, ça n'enlève effectivement rien à sa qualité. En fait, c'est ça. Moi, je trouve que c'est vraiment la suite de 3D Land, mais avec ça reprend la formule donc de 3D Land, mais ça la perfectionne vraiment en effaçant quasiment tous les défauts que pouvait avoir 3D Land. Notamment
comme
niveau...
défaut, notamment c'est ce jeu. Bah, moi, 3D Land, moi j'ai adoré, donc je peux pas te...
Non, mais moi aussi j'ai adoré, déjà je trouve qu'il y a sa difficulté. 3D Land était super facile. Je trouve que 3D World reste quand même un jeu plutôt facile, mais c'est beaucoup mieux géré. La difficulté arrive quand même plus vite. Et puis il y a aussi ce côté au niveau du déroulement de l'aventure, c'est-à-dire que 3D Land, je suis désolé, mais il commence à y avoir prescription pour les spoils, mais dans 3D Land, quand on finissait le jeu, il fallait à ce moment-là finir tous les niveaux avec toutes les étoiles cachées et et atteindre le haut des drapeaux, que ce soit avec Mario et avec Luigi, pour débloquer en quelque sorte un deuxième jeu. où on refaisait tous les niveaux mais qui étaient entièrement refaits. Et là dans 3D World, c'est un peu plus c'est un peu moins laborieux, on va dire. C'est-à-dire que quand on finit le jeu, on va aussi débloquer des trucs mais qui vont se débloquer plus immédiatement sans obliger de tout faire à 100%. Et ça va vraiment être le final qui va nécessiter de tout faire à 100%.
Oui, parce que c'est vrai que c'était quand même un peu fastidieux cette partie-là, c'est vraiment
ouais, voilà.
Finir.
Voilà, exactement. Là, ça va vraiment être le tout dernier. Je vais pas trop rentrer dans les spoils.
Attends. Méduse a mis quand même son casque en muet pendant le spoil, même si le spoil était quand même, enfin voilà, c'était un muet assez extraordinaire.
Un spoil un peu binaire.
M'en fous.
Alors moi, du coup, j'ai une question par rapport à 3D World, enfin 3D Land, 3D World. C'est que j'ai le mauvais souvenir d'avoir fini le dernier monde de 3D Land en un quart d'heure dans le train. Et est-ce qu'il y a ce même problème dans 3D World de niveau et de monde extrêmement court où tu les finis très très vite ? Est-ce que c'est un peu plus consistant ?
Les niveaux en eux-mêmes, je sais pas, je pense que ça reprend un peu le principe de 3D Land, c'est-à-dire 3D Land était plutôt pas mal de ce côté-là parce qu'effectivement tu pouvais y jouer dans le train. C'est-à-dire que les niveaux duraient rarement plus de 5 minutes. Là c'est pareil, les niveaux sont en général relativement courts. J'ai pas de souvenir sur les deux premiers mondes, en tout cas, de niveaux très longs. Après, c'est pareil que 3D Land, c'est-à-dire qu'en fait, si tu veux vraiment ramasser toutes les étoiles, tous les machins, et atteindre le sommet du drapeau systématiquement, tu vas forcément y passer un peu plus de temps.
Ça, les étoiles, j'essaierai de toutes les récupérer, les drapeaux, on verra, mais...
Voilà, mais c'est toujours pareil. Moi, je trouve que... Enfin, moi, j'aime bien ce format-là, un format qui te permet de rentrer dans le jeu, de démarrer un niveau, de sans trop réfléchir. Quand tu finis assez rapidement, tu passes au suivant. Je suis plutôt fan de ce genre de truc-là où t'as beaucoup de petits niveaux mais assez variés plutôt que d'avoir des grands niveaux un petit peu pas vides. Mais... C'est vrai que sur Super Mario Sunshine, quand il rejoue aujourd'hui, ça fait vraiment genre tu galères pendant 20 minutes pour atteindre ton étoile. C'est pas toujours très agréable du tout.
C'est-à-dire que il y a un côté, c'est vraiment l'héritage des Mario 2D, les niveaux qui sont pas extrêmement longs. Et moi, c'est marrant parce que j'ai fait pas longtemps avant le Rayman Legends, où là les niveaux sont beaucoup plus longs avec énormément de checkpoints, où là on trouve que au maximum un seul checkpoint par niveau avec le drapeau, mais c'est beaucoup plus condensé. Enfin, t'as vraiment pas de passage où tu sens que bah voilà, ils ont rajouté un truc qu'on a déjà vu 15 fois juste pour faire genre. Tu sens le côté vraiment, il faut qu'à chaque fois il y ait une idée et pas faire du remplissage. C'est ce qui fait fatalement que les niveaux sont plus courts, quoi. Parce que Rayman Legend, à côté, t'as énormément de passages qui sont pas très inspirés, quoi.
Mais c'est pour ça que finalement je me dis que c'est pas une mauvaise formule. C'était un peu la formule de Super Mario Galaxy aussi, d'une certaine manière. Vaut mieux faire plein de petits niveaux originaux mais les faire bien, c'est-à-dire faire des petits niveaux mais bien qui reposent sur une idée. Et une seule, mais qui est bien exploitée à chaque fois, plutôt que de faire des longs niveaux qui reprennent à peu près toujours les mêmes mécaniques.
Et du coup, par rapport aux idées, est-ce que, vu que quand c'était la présentation du jeu à l'E3 2013, donc de cette année-ci, on n'était pas très enchanté par le Super Mario 3D World, au fur et à mesure des vidéos, on a vu que le jeu avait un potentiel absolument ouf. Est-ce que le jeu est finalement blindé de 11 000 idées par minute, comme Mario Galaxy 2 ?
Super Mario Galaxy 2, ça fait quand même partie des trucs où chaque fois que tu démarrais un niveau, t'avais une idée géniale par niveau. Là, Super Mario 3D World,
le début est très classique quand même.
Voilà, le début est très classique. Après, t'as des idées très bien exploitées sur chaque niveau. Maintenant, c'est pas aussi surprenant que Super Mario Galaxy 2. Voilà. Après, je laisse Oscar s'exprimer.
Ouais, non, mais je confirme. C'est-à-dire que bon, plus ça va, plus tu trouves des idées. Maintenant, c'est pas non plus la folie, mais ça reste. Tu sens quand même que on arrive un peu au bout de cette formule-là. Et c'est pour ça que moi, j'ai vraiment l'impression que c'est une sorte de perfection de la série dans cet aspect très proche de la 2D linéaire qu'on a déjà discuté. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'espère que le prochain Mario retournera une formule plus Mario 64, Mario Sunshine vers une tendance open world. Mais il y a, enfin voilà, il y a quand même tout un tas de petites idées qui sont
Mario
très
GTA,
efficaces.
Personnellement, comme ça, ce sera vraiment open world. Faudra tuer des mafiosos. En plus, comme c'est un plombier italien, ça peut coller. Hein.
dans une des cartes.
Un plombier italien new-yorkais, s'il te plaît.
Oui, en plus.
On est en plein dedans. On est en plein dedans. Moi, j'ai une question par rapport à Mario World, par rapport aux différents mondes. Je sais qu'il est découpé en mondes. Est-ce que c'est des mondes à chaque fois qui ont un thème, style le désert, la neige, la forêt?
Oui, comme c'est, comme toujours.
Ah
oui,
d'accord, ils ont pas varié. Tu échappes pas.
Ouais, après, je pensais que les trailers avaient l'air tellement diversifiés que je pensais que ça avait.
Non, mais après, le thème, c'est juste un thème graphique au final. Hein. C'est, les idées qui sont à l'intérieur du monde sont rarement reliées au thème, sauf. Alors peut-être dans les derniers mondes, parce que c'est vrai que sur les premiers, c'est.
Ouais, ouais. Non, mais vers la fin, on a un peu plus de variété quand même. Il y a les petits délires un peu qu'on voit d'ailleurs dans la pub de cette espèce d'ambiance de ville casino. Il y a aussi les délires des trains, là, des niveaux trains. Qui sont assez sympas. Oui. Maintenant, effectivement, on reste en terrain connu, quoi. Globalement, ça reste très classique, avec effectivement le monde désert, le monde glace, le monde château de Bowser, etc.
Et ouais, peut-être qu'on peut passer aux items maintenant.
Il y a le chat à parler, c'est très important. Il y a le multijoueur aussi qu'il faudrait qu'on arrive à aborder avant de conclure, ce serait pas mal. Sur les items, on trouve les grands classiques, champignons, fleurs, tanuki. Je crois qu'il y a le tanuki.
Ah ouais.
Et il y a le chat. Et c'est vrai que le chat, au début, ça fait un peu bizarre. Mais en fait, c'est ultra cheaté, le chat.
Je trouve pas, moi.
T'as une attaque surpuissante, tu peux faire une attaque piquée en l'air, tu peux grimper sur les murs, c'est quand même assez bourrin, quoi.
Oui, mais je suis pas d'accord. Moi, je trouve que le tanuki était clairement cheaté. Parce que dans le côté plateforme, le fait de planer, bah voilà, ça t'aide énormément. Le chat moins, parce que justement, il t'aide pas énormément dans les sauts. Évidemment, il y a le côté grimper sur les murs, mais finalement, enfin, je trouve ça super efficace. Moi, je trouve que c'est vraiment la bonne idée. Je voyais ça comme un truc cheaté, comme le tanuki au début. Pas tant que ça. C'est nettement moins cheaté que le tanuki.
De toute façon, comme dans tous les Super Mario Bros, Super Mario Bros, il y a toujours un item qui était largement plus puissant que les autres. Dans Super Mario Bros 1, c'était la fleur. Dans Super Mario Bros 3, c'était le tanuki aussi. T'as un costume de tanuki dans Super Mario Bros 3, tu torches tout le jeu, quoi.
Et le tanuki, justement, pour moi qui n'ai pas joué à Mario 3D Land, donc je sais pas du tout comment l'exploiter dedans. Est-ce que c'est un tanuki à le Mario Bros 3 où tu peux prendre de la vitesse et puis t'envoler longtemps ou c'est juste pour planer?
C'est vraiment pour planer.
Ah oui.
C'est vraiment, tu peux planer à l'infini, quoi.
Bah si tu te démerdes bien, ouais, clairement tu peux planer quasiment à l'infini.
Mais alors que là, enfin ouais, non mais le chat déjà il est très sympa à jouer parce qu'il te fait aller plus vite. Et puis il est vachement bien animé, quoi. Et puis
dis-le, il est mignon.
Mais oui, bon.
Mais ouais, attends, Peach en chatounette, voilà quoi. Moi je comprends que Toad derrière il se tape sur le champignon, quoi. Bon, personne ne réagit.
Il se met à tomber.
Cette blague a fait un four.
C'était pas une blague. c'est le cas. C'est le truc fonctionne comme ça. On grimpe et au bout d'un moment, hop, il galère de grimper. Il a une petite animation où il reste sur place. Puis après, il glisse sur le mur. Et d'ailleurs, ça peut même poser problème par rapport au moment où il glisse sur place, ce qui fait que on reste bloqué pendant un instant à ce niveau-là. Enfin, il est plutôt bien balancé, moi je trouve. Ça aurait vraiment pu être pire au niveau de la triche, et au final il est plutôt bien balancé et il apporte vraiment une nouvelle dimension à certains niveaux.
Alors est-ce que Super Mario 3D World, grâce à Oscar ou même aux autres, est-ce que c'est un jeu qui finalement, ça y est, Nintendo n'est plus sexiste, on peut jouer Peach dès le début sans avoir besoin de la débloquer, c'est pas la princesse à sauver, c'est si tu veux jouer uniquement le jeu solo avec Peach, tu peux. Cool, pas cool.
Mais là, d'être la triche, non? Elle plane aussi.
Elle plane, je sais pas si. Oui, si, elle plane un peu. Enfin bon, en même temps, rapide, si je me rappelle bien, donc ça.
Beaucoup de garde Mario, j'ai un peu fait quelques niveaux avec chaque perso pour tester. Mais c'est pareil, ils ont tous un peu leurs avantages et leurs défauts. Il y a quand même le personnage à débloquer. Bon, je vais pas dire qui c'est, mais normalement, tout le monde s'est fait spoiler la gueule par Nintendo.
Pas moi, merci.
Bon, je ne dis pas.
Ah, si, maintenant que tu le dis, je m'en souviens dans le trailer, mais sinon, j'avais complètement zappé, ouais.
Bon, voilà. Ce perso-là est quand même bien cheaté. Maintenant, il est super lent. Donc, c'est pas très grave. C'est-à-dire qu'il est vraiment cheaté pour jouer plus facilement. Mais il est un peu frustrant parce qu'il est lent. Donc finalement, voilà, on préfère revenir aux autres persos comme Mario, à la limite Luigi ou Toad qui va super vite, lui. Enfin voilà, il y a un bon équilibre dans l'ensemble entre les différents persos, je trouve ça plutôt bien géré, après ça reste gadget quoi comme jeu.
Du coup, au niveau multijoueur, est-ce que t'as eu la chance de pouvoir y jouer en multi?
Non.
Ah, c'est dommage.
Pas encore, moi, j'ai
pu y jouer en multi, mais à l'événement de Nintendo du mois de juin. J'ai pas pu y jouer là, chez moi, tranquillement, en multijoueur. Et déjà à ce moment-là, je trouve que le multi marchait pas si mal que ça. Alors si je dis pas de bêtises, c'est la première fois qu'il y a un multi dans un Mario 3D, même si on a dit que c'était un Mario qui était quand même très 2D dans son déroulement. Le truc est pas si mal géré que ça. J'avais l'impression, en juin, j'ai pas pu reconfirmer, mais il y a d'autres gens qui en ont parlé, que c'était pas aussi facile de buller que sur les New Super Mario Bros. Où c'est très 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 facile qu'il y ait un joueur qui passe un passage, tous les autres bulles derrière, et puis voilà, là j'ai l'impression que la bulle dure moins longtemps, qu'elle est un peu moins efficace, et qu'on a quand même tendance à crever si on sort de l'écran. Donc j'ai l'impression qu'aussi le multi a été un petit peu bossé, de sorte à être un peu plus, on va dire, peut-être un peu moins compétitif que sur New Super Mario Bros, mais un petit peu plus agréable à jouer. J'ai l'impression que c'est un peu moins, c'est un peu plus chacun dans son coin, mais on collabore quand même un petit peu, même s'il y a un peu moins d'aspect collaboratif, puisqu'il y a moins de mouvements qu'on peut faire à plusieurs personnages.
Mais un peu moins compétitif, un peu parce que les New Super Mario Bros, je les trouve pas du tout compétitifs. Il y a le côté à la limite où on se pousse, on se gêne.
Ouais bah c'est ça.
On se fait des crasses.
Oui mais c'est bordel.
Ce que je veux dire c'est que c'est pas spécialement motivé par le fait d'être celui qui a le plus de pièces à la fin du niveau, mais plus faire un coup de pute pour le fun quoi.
C'est motivé par le fait que ça, et puis c'est le jeu t'oblige à le faire parce que t'as entre guillemets une espèce de friendly fire. Je veux dire, de temps en temps tu fais un saut, t'atterris sur la tête de ton pote sans le faire exprès, tu le balances sur le map. Alors que là j'ai l'impression que c'est un t'as moins de chances que ça t'arrive. Alors, peut-être parce que c'est en 3D, du coup il y a un petit peu plus. Enfin voilà, t'as un peu la profondeur pour arriver à caler tout le monde. Mais j'ai l'impression que c'est un petit peu mieux foutu de ce point de vue-là. Alors après, j'ai pas testé à 4. Quand j'avais testé, on était 2 ou 3, je crois. Donc à 2 ou 3, ça marchait super bien. Je sais pas ce que ça donne à 4. Je pense qu'à 4, de toute façon, c'est un peu la foire d'empoigne. Parce que bon, t'es à 4, donc c'est forcément un peu le bordel. Mais voilà, donc du coup, malheureusement, je suis désolé, hein, chers auditeurs, on va pas pouvoir beaucoup parler de la partie multijoueur. Mais je pense que ça peut être un meilleur jeu multijoueur que New Super Mario Bros, au sens que New Super Mario Bros, tu le finis pas à 4 joueurs. Parce qu'au bout d'un moment, ça te gaffe de prendre tout le temps les mecs et les autres à la gueule. Alors que là, je dis qu'à 2 ou 3, c'est jouable. Ou alors, faut des mecs balèzes, quoi.
Je te contredirais juste là-dessus, enfin, j'ai pas testé donc le multi de Mario 3D World, mais je sais que c'est pas l'avis de tout le monde, mais je trouve personnellement que le multi des New Super Mario Bros. Est justement efficace par ce côté qu'il y a une interaction où on se gêne et finalement il y a ce côté c'est super facile parce qu'on est plusieurs et il suffit qu'il y en ait un sur les quatre qui crève pas pour continuer à jouer, mais il y a aussi ce côté c'est beaucoup plus difficile parce que tout le monde se gêne, on est sur des petites plateformes et on se prend la tête à passer. Enfin moi personnellement c'est ça que je trouve qui fait l'intérêt du multi dans les New Super Mario Bros. Et qui rend son multi efficace. Bon, maintenant, je sais que c'est pas l'avis de tout le monde, mais personnellement, un jeu où il n'y a pas d'interaction entre les différents joueurs et on se contente de jouer en solo mais à deux, je trouve pas ça super intéressant.
J'ai pas dit qu'il y avait pas d'interaction, je dis qu'il y en avait un peu moins.
Justement, ce côté bordélique fait l'intérêt du multi des New Super Mario Bros.
Ouais, mais disons.
Voilà, c'est mon avis.
Ok, bon, à titre personnel, je trouvais qu'au bout d'un moment, c'était souvent. Quoi. Je veux dire, au bout d'un moment, ça te fait chier parce que t'aimerais juste jouer, entre guillemets, normalement, même si. Voilà. Mais je comprends ce que tu veux dire, hein. Sincèrement, je comprends et je respecte l'avis parce que je vois exactement ce que tu veux dire. Bon, mais si on va peut-être parler voilà. Je pense que tout le monde a compris qu'on allait faire une pause musicale. C'est bien, je tente des trucs tout seul. Et donc, parce qu'on va parler de Zelda, j'ai dans ma petite playlist un morceau qui va faire plaisir à beaucoup de monde. Un morceau spécial caisse dédié à plein de gens. On va s'écouter un extrait de A Link to the Past. C'est le thème qui s'appelle Dark Mountain Forest, qui avait été demandé à corps et à cri sur le forum du dojo par je ne sais plus qui disait, mais non, mais il n'y a plus ce thème-là, si, il y est, apparemment il y est, mais pas au même endroit. Donc voilà, ça dure un tout petit peu plus de 2 minutes, et on se retrouve tout de suite après.
Ganondorf. Salut, je suis Ganondorf. Vous avez joué à mon jeu.
Putain, c'est pas possible. Méduse, stop. Arrête. Non. Faut pas que tu fasses ça, c'est dangereux pour ta santé.
Très bien.
Donc, alors, c'est quand même génial parce que je crois qu'on fera pas beaucoup d'émissions dans lesquelles on pourra parler d'un nouveau jeu Mario et d'un nouveau jeu Zelda.
C'est quand même une grande première.
Sera, à mon avis, ça va être la seule.
C'est
quand même assez exceptionnel d'avoir cette... je sais pas, ils sont sortis à quoi, 2-3 semaines d'écart, un truc comme ça.
Une semaine d'écart.
Une semaine d'écart, c'est
on a eu Zelda, une semaine après on a eu Mario, puis une semaine après on a eu Bravely Default, et cette semaine on va avoir Link to the Past sur console virtuelle Wii U.
Et est-ce qu'ils l'offrent pour tous les gens qui ont acheté Link Between Two Worlds
Ça m'étonnerait.
C'est pas le genre de la maison.
Offrir des jeux, bah si, ils l'avaient fait aux ambassadeurs, je vois pourquoi.
Ils l'ont fait au printemps aussi.
Bon, alors, les petits gars, A Link Between Worlds, est-ce que vous pouvez nous résumer un petit peu le pitch, le principe de jeu, les petites choses comme ça, parce que vous y avez bien joué, et vous pouvez nous dire, voilà, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas.
Ce qui marche pas, ça va être très court, mais on va commencer d'abord par récapituler un peu le bazar. Grosso modo, c'est le même monde que A Link to the Past, donc l'épisode de la Super NES, mais avec cependant quelques variations, et avec la grosse différence principale, évidemment, qu'il a été remodélisé en 3D, même si ça se joue toujours en vue de trois quarts haut. Et voilà, donc c'est super bien animé.
Donc, exactement la même carte.
Non, exactement la même carte, mais c'est
au magasin près où il y a quand même des petites surprises. Non,
le village Cocorico est très différent. Il y a un bar où on peut écouter de la musique, c'est génial. Ouais,
Ça se passe combien d'années après le Link to the Past?
C'est pas le même Link, ça c'est sûr.
Pourquoi c'est pas le même Link? Parce qu'il a de la barbe, de la moustache, un truc comme ça.
Non, il a pas pris de l'âge. Non, mais je sais pas c'est combien de temps après Link to the Past, je sais pas dans la timeline.
Parlons des vrais sujets, de la timeline. Ouais.
Non, putain, c'est pas la timeline, ce truc devrait pas exister.
Cette émission va durer 4 heures.
Je vais mettre d'accord tout le monde, ça se passe exactement 2h30 après A Link to the Past.
Et 44 secondes, parce que Link est passé aux toilettes.
Voilà, parce que donc il a ramassé la Triforce, et puis 2 heures plus tard, on lui a dit, bon, maintenant faut rempiler, mon garçon, parce que là, ça va plus du tout.
Il y a des problèmes. Et le problème, c'est quoi? C'est, grosso modo, il y a un type qui s'amuse à transformer en graffiti toute une série de personnes, dont les 7 sages qui sont garants de la stabilité, on va dire, du monde.
De la stabilité économique et monétaire, c'est la BCE en fait. Qui vend
la BCE, elle est pas très garante de grand chose, mais bon. Et du coup, pour le tout, évidemment, les gens qui sont transformés en graffitis, ce sont des graffitis sur les murs. Et les murs, c'est justement une des grandes nouveautés de Link. Between Worlds, puisqu'on peut à peu près infiltrer à peu près tous les murs du jeu. Dès lors qu'il y a un petit relief, à moins qu'il y ait un rocher qui coince quelque chose, on peut finir par se fondre après un certain temps dans le mur, ce qui permet de passer le jeu un peu sans
3D. C'est à ce moment-là que la modélisation 3D prend tout son sens, finalement.
Voilà. Et tout ça se fait de manière très, 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 très fluide, puisque le jeu est en 3D à la base, et donc c'est jamais qu'un changement de caméra. Adopter plus une vue de profil que de trois quarts haut. Voilà. Alors, ce qui est particulier dans. On dit que tu peux parler, hein, si tu veux.
Ouais, mais j'ai pas envie de te stopper.
Non, tu fais ça tellement bien.
Alors, ce qui est particulier, du coup, c'est que
tellement sexy que tu racontes ce que tu racontes.
La grosse, le gros changement par rapport au précédent Zelda, par rapport à Link to the Past, c'est que, d'une part, il n'y a plus de quantité d'objets, donc on a plus un certain nombre de flèches ou de bombes, tout est géré via la mana, qui remonte automatiquement, donc, des flèches, peut-être tout ce que
tu gères. Attends, tu gères plus du tout de munitions et ce genre de choses-là.
Plus du tout de munitions, rien du tout.
C'est une barre d'endurance. C'est que t'as pas d'endurance, il a besoin de Viagra pour aller plus vite.
C'est ça. Du coup,
ça rejoint un petit peu la barre de stamina qu'on avait dans Skyward Sword, sauf que là, elle sert pour tout, pas seulement pour.
Elle sert que pour les objets et le passage dans les murs. Les bottes de Pégase, c'est gratuit par exemple.
Ça veut dire que tous les objets sont magiques en fait.
Sauf les clés, sauf le bouclier, et sauf les bottes de Pégase.
Les bottes de Pégase, c'est infini, entre guillemets.
Grosso modo.
Jusqu'à ce que tu prennes un mur pour les bottes.
Ouais. Et donc voilà, alors, le deuxième changement en termes d'organisation du jeu, parce que après pour la structure, c'est similaire à Link to the Past, donc. Il y a peu de surprises par rapport au fait que, avant de passer dans le monde parallèle, on fait un certain nombre de choses, et puis voilà. Et l'autre grand changement, c'est qu'on trouve la progression est moins linéaire, dans la mesure où, auparavant, pour progresser dans le jeu, tu faisais un donjon, et dans le donjon, tu trouvais un objet, que tu savais que tu allais déjà utiliser contre le boss de fin, et puis après, cet objet-là te permettait de faire avancer l'histoire et de passer au donjon suivant.
T'avais le phénomène Twilight Princess dans lequel t'avais un objet qui a été utilisé que dans un donjon et après il servait plus à rien.
Ouais, voilà, par exemple. Ouais. Tu fais allusion à quel objet, en fait?
La toupie, je pense que c'était le pire.
Génial, cet objet. On peut l'utiliser encore pour avoir certains trucs dans le monde extérieur, la toupie.
C'est commun à plein de Zelda aussi. Hein. Il y a le coup du bâton qui fait créer un bloc je sais plus quel Zelda où tu n'utilises que dans un seul donjon, quoi.
Link to the Past, il y a deux, je crois, non?
Oui,
en gros, t'as les armes classiques, épée, flèche, boomerang, etc. Et puis, t'as les armes un peu plus originales qui, là, généralement, servent que dans un donjon, quoi.
Voilà. Alors, ici, déjà, si je fais pas de bêtises, il y a pas d'armes qui servent uniquement dans un donjon. Elles sont à peu près toutes utiles pour les combats aussi. Mais pour le coup,
la baguette de vent qui est pas très utile en dehors du donjon.
Pour la tour d'Escarmouche, mais aussi pour des ennemis un peu plus balèzes, pour les étourdirements. On va en reparler dans un instant. Donc le gros changement, c'est évidemment qu'on a, on fait tout dans l'ordre qu'on veut, dans la mesure où il y a un endroit qui centralise tous les objets qu'on peut louer ou qu'on peut acheter définitivement. Et donc voilà, t'as plusieurs possibilités. T'arrives dans le jeu, on te dit il va falloir que tu retrouves une certaine quantité de choses. Tu sais pas où aller, t'explores le jeu. Tu te dis là-bas je peux pas aller. Je vais voir à la centrale des objets, on va dire, s'il y a quelque chose qui peut me faire progresser. Puis tu prends un objet ou deux que tu loues, que tu achètes. La location c'est entre, entre 40 et 120 rubis peut-être. Et l'achat entre 400 et 1000.
La chance, c'était 800 et 1200 rubis de mémoire.
D'accord, ouais, mais alors du coup, ça veut dire que tu peux. Je suppose que ça coûte. Ça coûte du pognon. Donc je suppose que c'est pas forcément si évident que ça de récolter du pognon dans le jeu. Enfin, c'est-à-dire que le pognon a une vraie utilité dans la mesure où tes bourses sont jamais pleines.
C'est normal, comme dans la vie réelle.
Comme dans la vraie vie, voilà. Tes bourses ne sont jamais pleines puisque t'es obligé, je suppose, d'acheter régulièrement des objets. Mais alors, du coup, tu trouves rien dans les donjons. T'as aucun objet gratuit, quoi. T'es vraiment systématiquement obligé d'aller à la centrale d'objets.
T'as les tuniques ou les genres de choses qui sont dans les donjons.
Ouais, t'as quelques objets dans les donjons, et alors t'as des objets aussi que tu obtiens en faisant certaines actions dans le monde extérieur.
Pour pouvoir aller dans les donjons par la suite, d'ailleurs.
Tout trouver, il y a des objets, c'était déjà le cas dans Link to the Past, il y a des objets que tu trouves pas dans les donjons, que tu trouves ailleurs, et c'est le cas aussi, ce qui pousse à l'exploration, forcément, puisque d'une part, tu dois trouver où sont, les donjons pour récupérer ce dont t'as besoin, enfin, les objets de quête, et d'autre part, t'as aussi toute une série d'objets qui sont nécessaires, et voilà. Donc c'est assez orienté exploration, moins dirigiste, et ça laisse, ça m'a personnellement laissé une bonne impression comme système. dans la mesure où tu as vraiment une impression de liberté totale. Moi, j'avais l'habitude sur les précédents Zelda, à chaque fois que j'avais un nouvel objet, ben, je refaisais à peu près le tour de la map pour voir les nouveaux endroits qu'un objet me permettait d'accéder. Là, c'est un petit peu l'inverse. Tu vas explorer la map, tu dis, tiens, là-bas, je peux pas passer, comment je peux faire? Est-ce qu'il y a un objet que je peux utiliser de la centrale d'objets, ou alors est-ce que je dois faire autrement? Du coup, le côté exploration, il est un peu plus renforcé par ça, j'ai l'impression. Je sais pas, toi, Antix, si ça t'a fait ça ou pas.
Voilà, j'allais demander, effectivement, Antix, est-ce que ça ressemblerait, est-ce que si on faisait un MMO Zelda par exemple ou un truc comme ça,
oh,
ça pourrait commencer à ressembler à ça? Non, c'est pour déconner.
Non, pitié, pas ça. En fait, je suis assez d'accord, ça ressemble plus
à de l'open world finalement. Ça ressemble, moi d'après ce que me décrit Medusa, j'ai l'impression que ça ressemble énormément à de l'open world dans lequel on fait vraiment énormément d'exploration. Je sais que Wind Waker, du coup, que j'ai rejoué il y a pas longtemps, faisait aussi la part belle à l'exploration, mais plus pour les objets secondaires, c'est-à-dire les objets primaires, tu les trouves quand même dans des donjons, dans des quêtes, dans des machins. Parce que toi, t'as l'impression que là, on a vraiment touché le... Enfin, que Nintendo a mis un très bon point là-dessus en disant, tiens, on va laisser la liberté complète aux joueurs, c'est vraiment juste de l'exploration, ou est-ce que finalement, il y a quand même un petit peu de dirigisme?
Il y a un peu de dirigisme, pas mal au début du jeu, en fait. Je trouve que ça devient vraiment libre à partir du moment où tu te retrouves dans le monde des ténèbres du jeu, globalement.
Ouais, c'est ça. Ouais, ouais.
Où là, c'est, t'arrives, on te dit, tous les donjons, ils sont là, tu te démerdes à partir de maintenant. Et je trouve, enfin, j'ai vraiment l'impression que pour The Zelda là, Nintendo a fait... C'est dit qu'ils allaient recentrer tous sur l'exploration de la carte plus que sur les donjons qui sont, sont assez petits, ça se finit en une vingtaine de minutes grand max.
Ouais, ça dépend des donjons, mais effectivement, là, c'est assez surprenant.
Ils sont bien faits, mais ils sont très courts, et du coup, on passe plus de temps à chercher comment j'atteins tel donjon, comment j'arrive à quelle partie de la carte, que vraiment à faire le donjon en eux-mêmes. Et moi, je trouve que c'est quand même une bonne chose, parce que du coup, c'est un vrai plaisir d'explorer cette carte, et c'était pas forcément le cas dans Twilight Princess, qui avait des très bons donjons, mais la carte, pour la visiter, c'était pas génial, par exemple.
Mais alors, du coup, est-ce que tu peux te retrouver coincé, genre, tu vas dans un donjon et puis t'as pas le bon objet, ou est-ce que systématiquement, pour atteindre l'entrée du donjon, t'es obligé d'avoir les 2-3 objets? Est-ce qu'en termes de level design,
Game design Nintendo, donc ils font l'objet pour entrer dans le donjon.
J'ai un doute là-dessus, mais enfin, au pire, comme t'as un système de téléportation, si t'as pas l'objet, t'as juste à aller au point de sauvegarde, ouais, et il te voit, tu peux retourner directement à la boutique des objets.
Voilà.
D'accord.
T'es pas trop gêné.
D'accord, donc c'est plutôt bien foutu. Mais du coup, les donjons qui durent une vingtaine de minutes, est-ce que c'est pas aussi lié au fait que c'est un jeu sur portable et que du coup, il faut effectivement réduire les sessions de jeu? J'insiste beaucoup, mais c'est vrai que dans le design d'un jeu portable, il faut penser au fait que les gens font des sessions de jeu plutôt courtes.
Alors moi je trouve que ça se... Oui et non, enfin moi je suis un grand amateur de Zelda, donc pour moi un Zelda ça doit pas être des donjons courts. Après c'est vrai que tout est fait pour pouvoir se déplacer facilement, on dit que ça parlait d'un système de téléportation effectif dans les deux mondes et qui fonctionne très bien. Ça n'empêche pas que au niveau du monde extérieur, t'as plein d'explorations. Mais c'est vrai que les donjons, il y en a certains, surtout les premiers en fait, dans le monde secondaire, je trouve que ça... Il y en a encore qui sont courts, mais je les trouve tous intéressants, en fait, les donjons déjà. Donc, on aurait aimé qu'ils soient plus longs, mais ils ont la qualité quand même, quoi. Mais ils sont courts. Ils sont courts. Certains, c'est vrai que ça va assez vite. Ou si tu prends la tour de...
Des rats.
La tour des rats dans Link to the Past, avec ses multiples étages, c'est peut-être le seul qui a exactement la même longueur dans Link Between Worlds, quoi. Sinon,
effectivement, ça fait. Donc celui-là, il est vraiment long, du coup.
Il est pas vraiment long, mais il a la même longueur. Après, pour les autres, j'ai l'impression qu'ils seront.
Alors, est-ce que tu dirais que s'il était plus long, ça le rendrait un petit peu plus attirant?
Je sais pas, ça dépend des donjons, parce que là, pour le coup, je trouve que les donjons sont vraiment de qualité et vraiment intéressants.
Mais est-ce qu'ils sont longs et durs? J'insiste un peu parce que je sens que j'ai fait un flop le premier coup. Voilà, il passait à côté, le monsieur.
Dur, ça dépend lesquels. Encore une fois, il y en a pour lesquels j'ai terminé le boss avec un demi-cœur. Tu vois? Et après, il y en a pour lesquels c'est une formalité. Mais globalement, c'est vrai que quand tu connais bien Link to the Past, tu sais à peu près à quoi t'attendre. En termes d'énigmes et en termes de boss, même s'il y a quand même des boss originaux, bon, pas spoiler, on va pas en parler, mais il y a quand même, je trouve qu'au niveau des boss, ils sont quand même assez originaux pour une bonne partie d'entre eux.
Alors, ils prennent pas systématiquement les boss de Link to the Past, du coup.
Le design est souvent pris, après la façon de les battre de mémoire change pour la majorité d'entre eux. Je crois qu'il y a que vraiment un ou deux boss qui sont copiés-collés.
J'ai une question, vu qu'il y a donc Link to the Past qui va ressortir là sur la console virtuelle de la Wii U. Est-ce que vous conseillez de faire d'abord A Link to the Past avant A Link Between Worlds pour bien saisir éventuellement les références du jeu, ou est-ce que ça peut au contraire, je sais pas comment dire, mais lasser un peu, rendre l'expérience plus lassante de Link Between Worlds?
L'inverse, je dirais, dans la mesure.
Pareil, l'inverse, dans la mesure où le Link to the Past est quand même assez dur par rapport à Between Worlds. Et ce serait dommage de décourager, de se décourager sur le premier et pas jouer au second du coup.
Moi, c'est pas en termes de difficulté, mais en termes de qualité. Je veux dire, A Link to the Past, c'est, de toute façon, je crois que c'est à peu près pour tout le monde la référence, une grande référence des jeux d'action, aventure en 2D. Mais, je trouve que Link Between Worlds, jouer à Link to the Past après, je sais pas quel effet ça doit faire. Je me le demande. Parce que Link Between Worlds est quand même assez énorme et il a une réalisation, je trouve assez top.
La réa de Link to the Past tient quand même.
Oui,
ça
a très bien vieilli quand même.
Ça a plutôt bien vieilli.
Ouais, mais
je comprends le point
de vue. Il risque de faire prendre un coup de vieux à Link to the Past, le nouveau là. Ouais.
Alors, moi j'ai une autre question. Est-ce que, puisqu'on est dans les comparaisons avec A Link to the Past, j'en ai une autre intéressante. Est-ce que vous pensez, c'est une question collective, hein, j'inclus les gens qui ont joué et les gens qui n'ont pas joué. Est-ce que vous pensez que si Nintendo a choisi de revenir à l'univers de Link to the Past, c'est pour surfer un petit peu sur la mode du rétro, c'est-à-dire, voilà, on reprend un univers qui est considéré par beaucoup comme un excellent univers et on y recolle finalement.
Alors, moi je prendrais juste la parole avant ceux qui ont joué, mais je trouve qu'il y a un traitement avec ce jeu qui me fait penser un peu à ce qu'ils avaient fait avec New Super Mario Bros. Notamment pas seulement une question d'univers, mais une question de gameplay tout simplement, parce que finalement les Zelda sur la DS, les Phantom Hourglass et Spirit Tracks, ça a abandonné un peu la 2D. Là, on revient à la formule classique des Zelda à l'ancienne en 2D. Et c'est un petit retour aux sources, comme New Super Mario Bros, qui était un retour aux sources au Mario en 2D qu'on n'avait plus depuis Mario World, puisque Yoshi's Island n'est pas un Mario. Mais, je trouve que
t'emmerde. Ouais, c'est juste, je t'emmerde.
Enfin, tout ça pour dire que je trouve que le jeu aurait presque pu s'appeler New The Legend of Zelda, quoi. Mais je me
trompe
peut-être.
Tu te trompes à mon avis, mais...
Oh, alors l'avis de ceux qui ont joué, le contre-avis de ceux qui ont joué, éventuellement votre avis sur, voilà, est-ce que Nintendo sort sur la vague du rétro en profitant d'une licence forte, d'un univers fort pour aller taper la bourse nostalgique.
Taper dans le cœur du fan aussi, faut pas l'oublier. Hein.
Taper très fort dans le cœur du fan.
Et dans son porte-monnaie au passage.
Voilà, non mais c'est ça l'important.
Et je crois que de mémoire, Link to the Past, c'est l'épisode le plus populaire aux États-Unis, et les États-Unis, ça reste comme le pays où Zelda marche le mieux. Donc je pense que c'est pas un choix anodin. Ils ont voulu faire aux vieux fans « Hey, regardez, nous aussi on se souvient de Link to the Past, on vous aime, et voici, on vous le donne. » Et aussi parce que ils n'ont pas recréé un monde, donc du coup ça coûte quand même un petit peu moins cher derrière.
Ouais, enfin ils ont pas eu à recréer un monde, mais ils ont quand même dû...
Il y a eu du taf derrière.
Ouais. Moi je ne sais pas s'ils ont voulu surfer sur la vague du rétro. En fait, ce que je trouvais moi intéressant de Link to the Past, c'est qu'on a finalement assez peu retrouvé dans les Zelda suivants. On retrouvait très peu dans les Zelda en 3D, c'est que le jeu est hyper dense et que la map, a une certaine taille. C'est pas non plus la plus grande map de jeu de tout le monde, loin de là. Et du coup, tu t'ennuies jamais, tu as toujours quelque chose à faire et tu peux toujours aller le faire sans devoir parcourir des distances de malade. Je trouve que le rythme du jeu, du coup, il est super intéressant. Et là, je sais pas s'ils ont voulu surfer sur la vague du rétro ou simplement s'ils voulaient un concept qui tiennent bien pour un support portable et qui en plus, le jeu bute tellement la gueule que c'est difficile de dire s'ils ont voulu surfer sur la vague du rétro ou juste.
En tout cas, s'ils l'ont fait, ils l'ont très bien fait.
Qui collait bien au support mobile.
Après, pour le
super bien réalisé.
Pour support portable, la question... t'as quand même 3-4 jeux, enfin, t'as quand même 2-3 Zelda sur support portable avec des cartes de qualité. Enfin, je pense à Link's Awakening ou les Oracle of Season et Age. Je ne sais pas, c'était pas forcément le choix qui me serait venu à l'esprit en premier pour du portable, mais
Effectivement, c'est d'ailleurs, petit personnage, je trouve que l'adaptation GBA, si elle est de très bonne qualité, soyons d'accord, est peut-être un peu moins adaptée à du portable. Mais alors, pour répondre au contre-avis d'Oscar, parce que là, vous n'avez pas tout à fait répondu, est-ce que vous trouvez que c'est New Zelda, New Legend of Zelda? Un peu dur à dire, mais.
C'est un peu dur à répondre.
Est-ce que vous trouvez que c'est un renouveau? Est-ce que vous trouvez que c'est un finalement, effectivement, comme disait Oscar, on reprend un jeu avec un gameplay 2D, on reprend finalement les concepts de la 2D, mais on essaie de les sublimer, de les pousser jusqu'au bout du concept et d'aller vraiment faire du neuf avec du vieux, j'ai envie de dire.
De moderniser la partie 2D.
Ouais, complètement, dans la mesure où, de toute façon, ils ont repris le même monde, l'inspiration elle est là, et ils ont effectivement modernisé le gameplay, puisque on se souvient qu'il y avait toute une série de... Enfin, je veux dire, à part les mouvements qui étaient possibles en sens autrement que, enfin, qui étaient possibles en diagonale dans, il y avait 8 directions sur lesquelles Link pouvait se mouvoir dans Link to the Past, donc au bas, gauche, droite et puis les diagonales. Bon, ici avec le stick, forcément, tu bouges comme tu veux, tu lances ton boomerang comme tu veux. Par contre, les flèches, tu tires en diagonale, tu tires pas comme tu veux. Mais t'as toute une série de choses, évidemment, qui ont été travaillées pour que justement le jeu soit au standard actuel, d'autant plus qu'effectivement il y a beaucoup de jeux 2D qui sortent maintenant en indé. Du coup la barre elle était, enfin même s'il n'y a pas de très bons jeux en vue du dessus du côté indé, la barre était de toute façon très haut pour faire un bon jeu 2D. Et de ce coup-là, je trouve que c'est vrai que c'est complètement la modernisation d'un gameplay qui a 20 ans, quoi. Et qui pour le coup reste, c'était déjà pas un gameplay qui avait spécialement vieilli. Mais là, il est vraiment sublimé, quoi.
J'irais même plus loin parce que le fait qu'ils aient fait cette histoire d'objets à louer et de donjons que tu peux faire dans l'ordre que tu veux, finalement, ils ont quand même essayé d'aller plus loin que juste moderniser Link to the Past et essayer d'apporter vraiment autre chose, ce qu'à mon sens, les New Super Mario Bros. Ne font pas par rapport au Mario Bros. D'origine, où finalement, New Super Mario Bros., c'est presque Mario Bros. 4. Y a pas vraiment quelque chose en plus, je trouve, dans les New Super Mario Bros. Par rapport aux vieux.
On va avoir des problèmes.
À part que c'est plus mou. À part que c'est encore plus mou qu'avant. Enfin, c'est plus mou qu'avant. Alors que je trouve vraiment ce Zelda, même s'il a ce côté un petit peu new avec la modernisation, il essaie vraiment d'apporter quelque chose, même si ça reste encore un peu sur les bases. Il veut vraiment apporter quelque chose en plus. Donc l'appeler New Legend of Zelda, ça me paraît un petit peu facile.
Dans le sens réducteur en fait.
Un réducteur, dans le sens où
ça va bien au-delà en fait.
Il essaie vraiment de faire. Enfin, il y a quelque chose en plus qu'il n'y avait pas à vendre en tout cas dans les Zelda récents, parce qu'il me semble que le premier Zelda était quand même assez ouvert.
Alors je vais vous poser une toute dernière question, puisqu'il va falloir qu'on conclue à un moment.
Il y a deux éléments importants à aborder.
Et alors moi,
vas-y, pose la question.
Alors, la musique est top.
La musique est...
Non, mais elle déboîte sa mère.
Elle déboîte sa grand-mère, voilà. Vas-y, pose tes deux trucs et puis je poserai ma question après.
Elle déboîte les 10 heures d'aventure. pour les deux trucs, d'abord c'est qu'il y a... Le tactile est super bien utilisé. Il y a moyen, enfin on l'apprend pas dès le début du jeu, mais t'as des petits tutoriels qui te disent, t'es en fait avec le tactile, tu sais que tu peux aussi faire ça et puis ça. C'est super sympa. En fait, tu sais, avant, pour gérer ton inventaire, dans les Zelda en 3D aussi, tu passais par le menu. Et depuis Wind Waker, forcément, tu passes plus par le menu. Tu fais switch tes objets directement comme tu veux. Et t'as aussi un système similaire dans Link Between Worlds qui fonctionne super bien. Où pendant que t'es en mouvement, avec ton pouce droit finalement, tu cliques sur un des deux objets que tu veux changer. Et puis après, t'as une liste. Tu fais dérouler vite fait. Hop, tu recliques. Et puis voilà, tu continues, quoi.
En termes de... ça c'est de l'ergonomie, Ocarina of Time 3D avait le même genre de truc où tu pouvais changer effectivement l'item en plein jeu parce que t'avais ton inventaire tout le temps sous les yeux.
Je sais pas comment c'était fait dans Ocarina of Time.
Le gros doute de la 3DS.
Ah oui, complètement. Mais pour le coup, je trouve ça super, super pratique. Il y a tous des petits trucs d'ergonomie comme ça qui sont vraiment bien foutus. Et l'autre truc sympa dont il faut absolument parler, c'est les défis via le Street Pass, qui sont vraiment cool, où dès que tu street passes quelqu'un, grosso modo, alors si je me plante pas, parce que moi dans ma région je street passe pas grand monde, mais si je me plante pas, quand tu street passes quelqu'un, ça fait apparaître un link quelque part dans le monde sur la carte pour savoir où il y a des affiches dans le village Cocorico. Alors ce link là, tu peux aller le défier. Et là, il a différentes capacités. Ça peut aussi bien être un Link avec trois cœurs qui vient de débuter qu'un Link full objet complètement surpuissant qui va t'enlever deux trois cœurs en un coup et que tu affrontes en fait au sommet d'une tour. Et quand tu gagnes, tu gagnes du pognon. Puis quand tu perds, t'es mort. le combat est fini, tu peux plus affronter le Link, donc t'as intérêt à gagner ou alors à pas sauvegarder, t'as ta console est rallumée. Quoi. Et ces combats-là sont super bien foutus et vraiment, vraiment pas évidents, je trouve.
Alors voilà, pour conclure cette émission, j'ai une petite dernière question à vous poser. C'est bien d'avoir parlé ces deux éléments, parce que je n'étais pas au courant. Ah oui, faut pas te gêner, tu veux cracher tes poumons aussi Fais attention, on va te virer, enfin, si tu continues comme ça, ça va aller maintenant. Alors, pour ceux qui ont joué, est-ce que vous pensez que ce Zelda peut devenir finalement, que c'est un galop d'essai, et ça peut devenir, que toutes les nouveautés qu'il apporte pourraient devenir des standards de la série, que le prochain Zelda qu'on aura sur Wii U pourrait casser complètement la linéarité, reprendre le système de location d'armes, reprendre l'exploration, et ainsi de suite? Ou est-ce que vous pensez que finalement, ça... Ils feront peut-être un Link Between Worlds 2 dans lequel ils apprendront à peu près les mêmes idées, mais qu'ils vont pas trop prendre de risques pour la version salon.
Moi, je pense que je me permets de répondre en premier. Je pense qu'ils vont. Je pense qu'effectivement, ça peut être un terrain d'essai pour voir la réception des choses et comment la série va évoluer. D'autant plus qu'Aonuma à plusieurs reprises dit qu'il voulait absolument et de manière assez radicale, j'ai l'impression, changer la série.
Ça c'est ce qu'il dit depuis Twilight Princess, quoi.
Ouais, mais grosso modo Twilight Princess, depuis on a eu que un Zelda qui est Link Between Worlds. Donc
on a eu Skyward Sword.
Ouais, qui était très bien Skyward Sword.
Et puis on a eu Spirit Track, ouais voilà, je dis.
Mais voilà, pour le coup, c'est vrai qu'il y a eu des changements dans la série. Je sais pas si forcément pour le Zelda sur Wii U ce sera adapté d'avoir un système similaire laisse la part belle à l'exploration, pourquoi pas, ça dépendra comment ça s'inscrit dans le jeu, dans l'univers qu'ils décideront, tout ça. Mais ça peut fonctionner, je pense. Après, est-ce que ça va être leur choix ou pas? Je crois qu'on est encore trop tôt pour le savoir.
Antique, qu'est-ce que t'en penses?
Moi, je pense vraiment que c'était un galon d'essai. Ce qui expliquerait aussi pourquoi ils ont repris à moins qu'ils existent déjà pour limiter un petit peu le risque. Et j'espère, enfin, en tout cas, j'espère vraiment qu'ils vont conserver ce système et aller encore plus loin pour la version salon.
D'accord. Bon, messieurs, je pense qu'on va se quitter. Alors, je dis très probablement la dernière émission de la saison. On reprendra une saison 3 à partir de mi-janvier ou fin janvier si tout va bien. Entre deux, donc, vous nous retrouverez en podcast mardi prochain et le mardi d'après. Donc je sais plus quel mardi c'est, du coup c'est le 17 ou 24, comme cadeau de Noël. Vous avez un super cadeau de Noël, vous avez un podcast très 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 spécial, je n'en dis pas plus.
Ouais.
Voilà, mais voilà, j'espère que les fidèles du podcast ne rateront pas ça, parce que franchement je pense que ça va avoir la peine. J'ai pas de blabla de conclusion pour faire le coup de Pikachu de la dernière fois, mais je suis pas sûr que ça va peut-être être lourd au bout d'un moment. Donc si quelqu'un a une blague raciste, c'est le moment.
Non, on en a pas.
Bon bah tant pis alors. Bon bah du coup, ta gueule et mes Tetris, et puis on se retrouve pour la saison 3. Au revoir tout le monde.
Salut.
Salut.